Bienvenue dans Intermédiaire en escapade, ici et maintenant face à l'agitation du monde. Une question sera le fil rouge de cette émission. Que deviennent les acteurs culturels? Que deviennent les artistes dans le bouleversement frénétique que traverse notre pays? Waouh, c'est déjà la dernière saison, la dernière émission de la saison. Dans l'émission précédente, on évoquait l'offensive de l'extrême droite sur les médias publics. La guerre culturelle qui est engagée concerne bien sûr les acteurs culturels et les artistes à qui nous demandons dans le prochain Intermédiaire Mag où en est-on de la culture aujourd'hui et quelle sera la culture de demain? Point d'interrogation. On trouvera des éléments de réponse dans cette émission avec le vice-président du département du Gard, Patrick Malavieille, en charge de la culture gardoise, la directrice du festival de street art, Christelle Labazor, qui se clôture aujourd'hui à 7, et l'auteur et metteur en scène Stanislas Nordet, qui vient de prendre la direction des éditions Espace 34, dédiées à l'écriture dramatique contemporaine. On parle donc de culture avec Altermidi sur Radio Escapade. Il y en a déjà qui sortent leur revolver, mais we don't care. Toute bombe, Star Shooter, sorti en 1978 à l'heure du réveil du rock français, de l'énergie en barre, histoire de réveiller un peu les consciences, que ce soit celle des artistes ou celle des politiques. Les signataires de la pétition Zappé Bolloré qui dénonce l'influence croissante du groupe industriel sur les médias et les lieux de création culturelle en savent quelque chose. Le 17 mai dernier, le directeur général de Canal+, Maxime Saada, a publié une déclaration publique cinglante qualifiant les signataires de militants malveillants et dénonçant une prétendue instrumentalisation politique de la culture. En visant nommément des artistes et des techniciens, la direction de Canal+, a confirmé les craintes les plus vives, l'emprise des grands groupes sur les espaces de débat et de création. Cette dynamique s'inscrit dans un contexte où les libertés fondamentales sont progressivement grignotées par des acteurs économiques qui sont sous couvert de modernisation, imposent des cadres idéologiques restrictifs. Ces pratiques rappellent les heures les plus sombres de l'histoire, où les listes noires et les boycotts étaient des outils de répression politique. Nous sommes allés recueillir le point de vue de Patrick Malavieille, vice-président du département du Gard, en charge de la culture. Aujourd'hui, dans le paysage qui est le nôtre, la culture apparaît comme l'un des derniers bastions de la diversité des idées. Pourtant, elle est aujourd'hui directement menacée.
Je pense qu'aujourd'hui, la culture, d'une manière générale, il y a deux menaces sur la culture et sur les artistes. Il y a d'une part la baisse des financements. Bon, ça, c'est évident. L'argent public se raréfie, donc on serre la vis et on le fait plus sur la culture que sur d'autres choses. On trouvera toujours des crédits Alors bon, je parle là au niveau national, je vois bien que on n'a pas de mal à trouver des crédits pour l'armement, hein, en ce moment, les bombes, les obus, les drones, les avions, là il y a des sous. Et donc le reste est à la peine. Mais dans les collectivités, vous avez dans des conseils municipaux des élus de bonne foi qui se battent pour gérer leur petite commune, leur commune, et qui sont contraints à des choix drastiques. Et donc, finalement, souvent, c'est les ordures ménagères qui prendront le pas sur la culture, c'est la voirie qui prendra le pas sur la culture, etc. Donc c'est aussi le sens de ces rencontres. Je veux dire, voilà, attention, mesurons bien. Bien évidemment, il faut continuer à éclairer les rues. Mais dans la période où on est, bon, je replace Victor Hugo, on a aussi besoin d'éclairer les esprits et les consciences. Et ça, tout le monde ne le voit pas. Bon. Donc, première menace, c'est le financement. Et la deuxième, c'est cette forme de populisme qui est développée notamment par l'extrême droite, mais pas que, hein, qui est aussi rejoint par d'autres, qui nous avaient habitués à être un peu plus près de la culture et des artistes. Et aujourd'hui, on est en train il y a une tentative de caporalisation du choix des programmations, etc., etc.
Vous mesurez une bascule à ce niveau-là ?
Je mesure une bascule. Je mesure une bascule. Alors nous, dans le Gard, on est placé, hein, avec les mairies de Front National maintenant, de Vauvert, de Bagnols, de Beaucaire. Ils nous ont habitués. Mais je mesure aussi que, compte tenu qu'il y a cette poussée de populisme, parfois des élus, de bonne foi encore, peuvent être tentés pas de se censurer, mais de mettre en œuvre des manifestations artistiques où finalement ils auront la certitude d'avoir du monde, d'avoir. Voilà, ça marchera. Voilà. En fait, aujourd'hui, le discours, c'est. Voilà, on pense que quand ça marche, c'est qu'il y a la quantité. Mais la quantité, c'est pas forcément la qualité. Voilà. Et donc, on peut pas mesurer le succès d'un spectacle ou d'une exposition simplement au nombre de ses visiteurs.
Voilà. Je reviens sur ce que vous abordiez concernant la dimension festive et la dimension culturelle qu'on trouve notamment beaucoup en milieu rural. C'est des vraies problématiques. Qui sont aussi sociétales. Il y a ce rapport aussi entre les entre guillemets natifs et les néos, avec des enjeux culturels qui sont différents. Comment le département peut intervenir dans ce type de problématique ? À quel endroit ?
Alors on a pour ça quelques pistes. Hein. D'abord on a quand même 53 collèges publics. Avec des médiathèques qui sont bien équipées. Donc ce sont quand même des foyers où on peut, à partir de l'éducation artistique, faire des choses. On a aussi nos centres sociaux, et pas simplement dans les villes, on a aussi en zone rurale des dispositifs qui peuvent nous permettre d'avancer. Et puis il y a la volonté du département d'utiliser, j'allais dire, les grandes locomotives. C'est pas le mot qu'il faudrait employer, mais bon, on a une scène nationale à Alès, le cratère, il y a Paloma à Nîmes, il y a des grosses institutions, la MOBA à Bagnols, le festival itinérance de cinéma à Alès. Bon, là aussi, dans le cahier des charges, lorsqu'on les soutient, on leur dit voilà, allez voir un peu plus loin que votre précaré. Et par exemple, si je prends le bassin d'Alès, le cratère va hors les murs, donc hors du théâtre, et va dans les communes, voilà. Mais là aussi, il y a un danger. Si on n'y prend pas garde, le cratère peut très bien décentraliser des manifestations culturelles dans des communes, mais si c'est pour avoir les abonnés du cratère qui viennent voir le spectacle, c'est intéressant, mais ça ne suffit pas. Parce que ce qui est intéressant, c'est que les citoyens de ces villages qui reçoivent le cratère puissent être présents. Et donc, ça veut dire là aussi beaucoup de médiation en amont. Parce que si on arrive le samedi où on dit « voilà, ce soir, il y a ce spectacle », il ne faut pas croire que les gens vont se précipiter. Donc, ça veut dire en amont, bien travailler avec la collectivité, travailler avec les scolaires. Donc, moi, j'insiste là-dessus, il y a toujours un temps de... Et d'ailleurs, c'est valable pour les festivals. Moi, je suis de plus en plus convaincu que les festivals n'ont de sens que s'il y a un travail à l'année qui est réalisé sur le territoire. Parce que maintenant, le terme festival a été, à mon sens, a été un peu dévoyé. Bon, il y a parfois, on fait de programmation, de la billetterie, et on intitule ça festival. Pour moi, ça, c'est pas un festival. Un festival, c'est une manifestation qui doit incarner le territoire. Et on doit travailler suffisamment en amont avec l'ensemble des acteurs. Ça peut être le centre social de la commune, ça peut être les écoles, ça peut être la maison de retraite, les associations locales, les écoles de danse, voilà. Et du coup, ça prend une autre dimension. Et ça permet aussi de rapprocher les citoyens de même territoire qui n'ont pas les mêmes parcours et n'ont pas les mêmes histoires. Moi, je prends par exemple ma commune, la Grand-Combe, ancienne commune minière, ouvriers, mineurs, etc. Et depuis la fermeture des mines, de nouvelles populations, beaucoup d'artistes dans des friches industrielles, etc. Bon, au début, ça a frotté un peu.
Ouais.
Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que, on passait à autre chose, mais il y avait une forme de continuité. Et il y avait de nouvelles propositions finalement, donnaient au territoire une nouvelle vie, qui n'était pas celle qu'on a connue avec la mine, mais qui aujourd'hui apporte du dynamisme.
Et quels sont les vecteurs qui favorisent l'ouverture dans ce cas de figure ?
La rencontre. Il faut que les gens se rencontrent. Et ce n'est pas évident, parce que on parle souvent du vivre ensemble, mais on vit beaucoup à côté les uns des autres. Et donc, il faut que ça se mêle, quoi. Et pour que ça se mêle, ça passe par plein de choses. Ça passe par la vie quotidienne, ça passe par des sensations de découverte. Moi, je vois, on a différentes communautés, mais bon, je pense par exemple à la cuisine. Mmh. On a fait des tas de trucs autour de ça, mais c'est incroyable comme ça permet aussi...
C'est très culturel, la cuisine.
Mais oui, et de se rencontrer, et puis d'échanger, de se parler. Et donc, du coup, on n'est plus au vivre ensemble, mais on est plus du vivre côte à côte, on est vraiment dans le... Voilà, il faut arriver à ça. Et la rencontre, c'est ce qui permet de dépasser plein de préjugés. Bon, alors, c'est pas gagné, hein, parce que bon, dans un département comme le Gard, quand on se retrouve avec 6 parlementaires du Rassemblement National, je vous avoue qu'il y a du boulot.
Pour revenir sur les grosses locomotives là, qui sont aussi favorisées, bon, dans la baisse budgétaire, il semble quand même que l'État, à travers les directions régionales des affaires culturelles, soutient plutôt les gros lieux, les lieux labellisés, nationaux, etc. Mais ça laisse de côté une grande partie des créateurs. Quelle place vous donnez à la création, et notamment à la création de demain? Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, les créateurs d'aujourd'hui, là, il y en a beaucoup qui sont contraints d'arrêter, de se mettre au RSA, et ça va porter sur les années qui viennent. C'est-à-dire que soutenir les grosses structures, c'est peut-être important, mais si on abandonne les artistes...
Moi, je pense qu'effectivement, c'est un débat qu'il faut poser et qu'il faut avoir le courage de le mener. Nous, par exemple, nous soutenons donc les grosses structures. Hein, j'ai parlé du Cratère, de Paloma, d'Itinérance, de un certain nombre de périscopes, etc., enfin, plein de structures, mais nous avons baissé, pas énormément, mais nous avons baissé, ça varie entre une baisse qui va de 2000 à 5000 euros par structure, en fonction de leur état financier. On a regardé, on a fait de la dentelle, et ça nous a permis de constituer un fonds départemental dédié au nouveau projet. Et du coup, alors ils n'étaient pas très contents au début quand on a dit qu'on allait baisser, mais quand on leur a dit qu'on baissait, non pas pour le garder, mais pour du coup, ils peuvent pas être cons, enfin, voilà, enfin, même certains ont trouvé même que c'était juste.
Et pourtant, bon, on n'aime pas quand on reçoit une subvention, quand on nous la baisse, ça ne fait pas plaisir. Mais quand on... Et on l'a justifié. Et du coup, moi j'ai expliqué à la présidente ici, j'ai dit, mais on baisse, mais pas pour rendre au budget général. On baisse pour créer ce fonds, pour permettre justement... Ça nous a permis cette année de soutenir à peu près 40 nouveaux projets. Donc c'est plutôt bien, quoi. Alors, c'est à la marge, hein. Mais voilà. C'était aussi pour montrer aux grandes structures que bon, les petits souffrent aussi. Voilà.
La nuit, tous les chagrins se grisent. De tout son cœur, on aimerait que disparaissent ta jambe. Le feu, leur pierrerie attire ton cœur de la nuit. Les papillons noirs, les papillons noirs, les papillons noirs.
Gaffe aux papillons noirs sur Escapade, un titre interprété par le groupe Bijoux, accompagné par Serge Gainsbourg en 78. On retrouve le vice-président du département du Gard, Patrick Malavieille, qui alerte sur la montée en puissance des discours radicaux au sein des institutions et plaide pour que l'on remette la culture dans le débat politique.
Alors pour conclure, je vais vous demander un petit peu comment vous percevez aujourd'hui la culture, aujourd'hui ce qui est en train de se passer, et comment est-ce qu'on peut envisager l'avenir, qu'il soit sombre ou moins sombre.
Moi je pense d'abord qu'il faut qu'on remette la culture dans le débat politique. Elle n'y est pas suffisamment. J'ai trouvé qu'à la dernière élection présidentielle, plus ou moins, mais globalement, la culture a été absente. N'en parlons pas pour les élections législatives, la première comme celle qui a eu lieu après la dissolution. On était sur plein de sujets, mais pas beaucoup sur la culture. Et je pense qu'il faut vraiment en faire une question de débat politique national. Il va y avoir des échéances présidentielles et législatives. C'est l'occasion de remettre, de le dire. Enfin, en tout cas, il faut qu'on soit plus nombreux à dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut dans ce pays en termes de culture, quelle place on veut donner aux artistes dans la société.
Vous croyez vraiment que c'est possible aujourd'hui?
J'y crois. Je cultive l'espoir. Je cultive l'espoir parce que les choses... voilà, enfin,
est-ce que le monde politique serait sensible à cela? C'est ça que je veux dire quand je dis que vous y croyez.
Mais moi, enfin, vous voyez, on est capable d'avoir des lois de programmation pour tout, pour la santé, pour l'armée, etc. Est-ce que le moment n'est pas venu, depuis les années Malraux, de repenser la politique culturelle d'une manière démocratique et participative au niveau d'une nation comme la France? Et de rebâtir aussi un grand service public de la culture. Parce que quand même, bon, et enfin, on voit bien sur l'audiovisuel, on voit bien sur les maisons d'édition, on voit sur tout, quoi. On y va tout droit, quoi. Donc, moi, en tout cas, à mon petit niveau, je porterai le... Voilà. Et puis cette idée qu'on en a besoin. Enfin, on a énormément progressé sur la question de l'environnement, de la préservation de la planète, toutes ces choses-là, et tant mieux. Bon, beaucoup de gens aujourd'hui savent que si les abeilles disparaissaient de la surface de la Terre, la planète serait en danger. Mais...
Il n'y a pas vraiment de volonté politique en même temps là-dessus.
Non, justement. Mais quand même, pas suffisamment. Je suis d'accord avec vous. Mais il y a quand même, chez nos concitoyens, un peu de prise de conscience qu'on ne peut plus faire comme on faisait avant, du petit geste quotidien au grand geste plus collectif. Mais les artistes, ils sont à la société ce que sont les abeilles à la planète. Mmh. Et on ne le mesure pas. Parce que l'émotion, ça ne se quantifie pas d'un point de vue budgétaire, financier. Voilà, donc on est dans une société d'ultra-consommation à tout point de vue et en privilégiant la quantité au détriment de la qualité. On ne mesure pas les dégâts qui sont actuellement commis dans ce domaine-là. Alors, je ne parle pas simplement des écrans et de l'intelligence artificielle, hein. Je pense plus globalement. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est ? Voilà, on est dans cette dimension de la rentabilité immédiate, et donc forcément, le plaisir, l'émotion, rendre des gens heureux, c'est pas rentable immédiatement. Je pense qu'il faut qu'on continue à s'émouvoir et à admettre que la création, elle n'est pas figée et qu'elle doit surprendre. Voilà. Une création qui ne surprend plus est une création morte.
Merci. Une création qui ne surprend plus serait morte. La culture doit rester un espace de liberté et non un outil de propagande. À propos d'espace et de liberté, se tient actuellement à Sète le 19e festival de street art K-Live. Face à une urbanisation qui s'accélère partout dans le monde, le street art joue un rôle majeur dans la préservation de la mémoire et de l'identité des quartiers, mais aussi dans le renforcement du tissu social et du vivre ensemble. On en discute avec Christelle Labazor, la directrice de K-Live. Alors, 19e édition là, qui débute aujourd'hui. L'idée de départ de K-Live, c'était quoi ?
Il y a 19 ans en arrière, l'idée de départ, c'était de participer à l'essor, ou en tout cas à l'évolution, d'une certaine façon, que rencontrait le street art. C'est-à-dire qu'il progressivement... Enfin, le street art est sorti d'un statut vandal illégal, je dirais en quelque sorte acquérir des lettres de noblesse et être connu comme un mouvement artistique à part entière.
D'accord.
Et donc nous au début, notre intention première c'était d'inviter des street artistes et de proposer toujours plus de poésie dans l'espace urbain.
D'accord. Et 19 ans plus tard, la place du street art, ça a transformé la ville ?
Disons que le point d'orgue du festival, c'est ce que j'ai baptisé le MACO de Sète, donc le musée à ciel ouvert,
ouais.
et qu'il est, je pense, l'un des plus anciens musées à ciel ouvert en France, et que cette proposition artistique, oui, participe à la vie culturelle et même touristique de Sète.
Ouais. C'est quoi le côté transformateur justement du street art dans la cité? Ça joue sur quoi?
Je pense que que de vivre parmi des œuvres d'art, que c'est bon pour notre psyché à tous.
Ouais.
Et qu'il y a des endroits ou des quartiers ou des personnes, selon les personnes, que ça vient toucher la part sensible de beaucoup d'entre nous. Quand on agit par exemple à l'île de Thau, on rencontre des gens qui, pour diverses raisons, n'ont jamais été dans un musée ou dans une galerie d'art.
Mmh.
Et le fait d'être en contact, parce que c'est cela aussi qu'il y a de singulier chez les street artists, c'est qu'en œuvrant comme ça dans l'espace public, ils sont en lien direct avec les populations, et inversement, les populations sont en lien direct avec des artistes. Et ils les voient à l'œuvre, ils peuvent suivre l'évolution d'une œuvre du début à la fin. Et même quand on est néophyte, ça vient toucher notre part sensible. On a pu le constater, quoi, avec toute cette expérience, que des gens qui n'avaient pas d'appétence particulière pour l'art, voilà, ça les touche. Et
quel type de nature ce rapport peut avoir entre justement l'artiste qui finalement est de passage et la personne qui habite sur place?
Même quand la personne est réfractaire, puisque ça arrive parfois qu'il y ait des gens très, très réfractaires, comme la plupart des artistes, je dirais que 99% des artistes que nous avons invités sont de chouettes personnes et des personnes généreuses, il y a un lien qui se crée et de vrais échanges, des discussions. Ils répondent très très volontairement, très volontiers aux questions des gens. Ils leur parlent parfois de leur parcours. Et puis s'il y a vraiment des liens qui se créent, même s'ils sont éphémères, des liens qui se créent, puisque y compris, comme je le disais, les plus réfractaires, ça se termine très souvent avec des gens qui viennent amener un café, une bouteille d'eau à l'artiste pendant qu'il est en train d'œuvrer. C'est un rendez-vous au quotidien.
Et ce rapport au support de façade d'immeuble qui se transforme, ça propose une autre lecture aussi peut-être de la ville, mais aussi du quartier ou de la rue.
Oui, on pourrait parler de modification de paysage, surtout quand les murs initialement sont gris et tristes. Ça participe en effet à un changement, ou parfois quand un artiste vient œuvrer et qu'il prend en considération les codes couleurs alentour pour créer une peinture qui soit en harmonie avec le lieu. Et puis comme je le disais, c'est vivre, c'est parfois être immergé dans une œuvre, parce que quand il y a une façade de café qui est peinte et que les gens viennent boire leur café et que assis à leur table du café, ils sont immergés dans l'œuvre, ça a forcément un impact, alors conscient ou pas chez la personne j'en suis convaincue qu'il est vraiment bon pour chacun d'entre nous d'être parmi ces œuvres.
Alors dans la présentation un peu que vous faites référence à la vitesse, enfin, ou plus ou moins au fait d'une invitation à ralentir, à la décroissance, la sobriété. Vous pouvez développer un petit peu cette idée qui sous-tend des valeurs par rapport au festival Key Live?
Alors, moi, j'aime bien dire que depuis quelques années, nous faisons moins, mais mieux. C'est-à-dire que nous lançons moins d'invitations, mais nous prenons le temps de faire les choses. Oui, il y a une urgence à ralentir, à décroître. On essaie d'être cohérent avec tout ça. Les enjeux environnementaux nous interpellent. Enfin, nous y sommes sensibles, tant au niveau de la programmation artistique que l'on réfléchit. Il y a aussi le fait que certains murs peuvent avoir une vertu pédagogique, sensibiliser les gens, comme c'est le cas avec l'un des murs cette année, un projet qu'on a mené avec Ifremer.
Ouais.
Et puis l'idée, c'est aussi de découvrir ces peintures murales, puisqu'il y en a, je pense, à ce jour 43 ou 45, en se promenant, donc en marchant, en utilisant la marque. Et puis, c'est aussi réfléchir à la manière dont on consomme les matières, les matériaux pour la réalisation des murs. Il y a plusieurs choses. On essaie de faire du recyclage avec les supports de com que nous utilisons. Mmh. La restauration est très majoritairement vient d'un restaurateur qui est sur des circuits courts, enfin des petites choses qui sont des gestes du quotidien. Il n'y a rien de très original dans ce que nous faisons, mais ça fait déjà plusieurs années que nous le faisons, que nous pratiquons ces gestes du quotidien.
Cette art, il y a quand même une notion d'engagement dans l'art urbain. Enfin, il peut être à différents endroits, mais il y a une notion d'engagement.
Alors, peut-être un peu moins qu'il y a 10-15 ans en arrière.
Ah oui.
Ouais. Autant au début, je trouvais que faire intervenir un artiste, c'était considérer la façade comme étant une tribune libre. Et les artistes faisaient passer des messages. Après, ou alors leurs messages sont communiqués de manière plus poétique, moins rentre-dedans, peut-être, entre guillemets. Ça dépend de l'artiste.
Globalement, ça s'est un peu institutionnalisé, avec aussi le street art dans les galeries, etc.
Ah, de toute façon, oui, ça c'est certain. Hein. Depuis qu'il y a eu cette bulle spéculative au tout début des années 2000, certains artistes sont entrés dans des galeries, d'autres dans des musées, ou alors galeries et musées. Bon, le passage à la galerie n'est pas réussi chez tous. Il y en a qui trouvent leur écriture une fois en galerie, mais il y en a qui sont très intéressants en extérieur et beaucoup moins en galerie. C'est certain que ça s'est institutionnalisé, mais moi, même si je ne suis pas critique d'art et encore moins théoricienne de l'art, je considère que l'art urbain est un mouvement, si ce n'est le mouvement artistique majeur de la fin du XXe et du XXIe siècle. Mais ça, l'art contemporain a du mal à l'admettre et à le reconnaître.
Noir, Thilassine, un morceau de Thilassine qui était hier au concert, en concert au Théâtre de la Mer, dans le cadre du festival K-Live, 19e du nom. On retrouve sa directrice Christelle Labazor qui évoque l'importance de l'art urbain dans le monde.
Pour vous, le street art, c'est en quoi est-ce que ça caractérise la culture d'aujourd'hui ?
Bah déjà, de par sa présence à travers le monde, parce que je ne connais pas d'autres mouvements artistiques avec des artistes qui sont partout dans le monde, puisque même petite ville d'Asie du Sud-Est, par exemple, on trouve du street art sur les murs.
Ouais.
Ça fait quelques années qu'on revendique la culture comme étant un objet de démocratisation de l'art, en tout cas la peinture, et je pense que l'art urbain participe pleinement. Alors il ne faut plus dire démocratisation de l'art, il paraît qu'il faut dire démocratie culturelle. Je pense que l'art urbain y participe pleinement, du fait de cette proximité avec les populations, du fait aussi qu'il y a des petites choses comme sont les enfants qui amènent leurs parents voir les peintures murales, du fait qu'on pourrait considérer qu'il y ait une sorte d'appropriation des populations de ces peintures. Bon, alors après, je te cache pas qu'on ne plaît pas à tout le monde, mais personne ne plaît à tout le monde. Et puis que ça peut nous amener à nous interroger, je crois que dans l'édito, je parle de repenser cette manière que l'on a de vivre et d'habiter le monde qui nous entoure.
Renouer avec une présence plus consciente de ce qui nous entoure, ouais.
Oui, il y a cette notion. Moi, tu sais, dans la vie, je suis sophrologue, donc la conscience, ouais. Ça me parle.
Ce rapport peut-être aussi à l'espace public, parce que la culture, elle est de plus en plus dans l'espace public, elle se confronte à cette réalité-là, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant.
Oui, ou comme je le disais, la commande publique a toujours existé, mais la manière d'investir l'espace public, comme le font les artistes de l'art urbain, où il y a de vrais échanges, je ne connais pas beaucoup d'autres mouvements artistiques qui ont... Il y a quelque chose il y a un art en train de se faire, et avec de vrais échanges, de vraies propositions... Il y a quelque chose de très généreux qui, moi, me touche. Et en effet, cette idée de, bon, toujours plus de poésie dans l'espace public, mais comment habiter l'espace public et comment nous pouvons être traversés par ces peintures murales aussi. Je pense que si on avait l'occasion d'interroger les gens, c'est intéressant aussi de voir à quel endroit ça les impacte.
Après, l'espace public, il peut être... investi de façon autorisée ou pas ? Est-ce qu'il y a une grosse différence dans le mouvement du street art entre
Alors
ces
nous,
deux
par autres... exemple, il y a un débat qui s'est assez atténué, enfin, qui, dont j'entends plus trop parler, mais qui a duré longtemps, c'était vandale et vendu. Vandale vendu, quelle était la position, voilà. Donc c'était intéressant parce qu'il y a des puristes. Après... ce que j'ai observé là toutes ces dernières années, c'est que ces artistes revendiquent de plus en plus le statut d'artiste. T'as des street artistes qui avaient un blaze, comme ils disent, et qui aujourd'hui reprennent leur vrai nom et revendiquent le statut d'artiste. Après, t'as les puristes hein, qui viennent, comme on dit dans le langage, dans le jargon, qui viennent soyer les murs, qui viennent, voilà. Ça implique aussi la notion de territoire,
ouais,
ces peintures murales. Mmh. Après, tu vois, à l'île de Thau, il y a au moins 8 ou 9 peintures murales et elles sont extrêmement respectées. Les ados sont super contents de la présence de ces peintures murales et ils nous disent que c'est venir prendre soin de leur cité.
Là, il y a 3 artistes invités pour cette édition.
Il y a un duo et 2 artistes. Cette année, on a mis en place des associations, des collaborations. J'avais envie de travailler sur des thématiques. Et alors que j'étais en train de réfléchir, est venu à moi Ifremer avec un artiste, donc leur projet, la Océanorue. Donc là, on a développé un mural sur le thème art et écologie. Puis est venu en même temps vers moi deux flammes qui agissent auprès d'habitats jeunes, auprès de jeunes migrants non accompagnés. Et là, on a développé un projet art et société. Et puis, ben, le grand projet, le projet majeur de cette année, c'est art et sport.
Pour conclure sur la culture de demain, comment est-ce que tu vois la culture de demain à partir du street art ou pas, hein, d'ailleurs?
Moi, j'aime bien l'idée d'être là, à l'instant présent. Ouais. La culture de demain, elle est un peu mise à mal, hein, déjà depuis quelque temps. Les subventions s'amenuisent, les mécènes sont frileux. Du coup, ça devient complexe. Ouais. Bon, moi, je pense que, de toute façon, voilà, 19e édition, on sait aussi nous sommes des personnes résistantes. Nous sommes en résistance depuis longtemps. Parce que rien n'est, même si nous sommes soutenus et accompagnés par la ville, rien n'est acquis. Et c'est toujours des petites guérillas urbaines que de proposer ces peintures murales, ces projets de peinture murale. Donc la culture de demain, il faut qu'elle résiste, mais faut pas non plus qu'elle s'asphyxie et qu'elle soit en apnée, quoi. Il faut trouver des solutions. Après, moi, je pense que ce qui peut nous sauver, c'est le collectif. Mmh. Agissons ensemble et à plusieurs nous sommes plus forts, comme dit la chanson. Mmh. Et soyons vigilants à tout ça, il faut résister, quoi. Faut pas que les extrêmes ou certains extrêmes viennent nous manger tout cru. Mmh. Mais ils parviendront pas de toute façon.
Vous êtes bien sur Radio Escapade avec le journal indépendant Intermidi, une émission consacrée à la culture d'aujourd'hui et de demain, en miroir avec la thématique du nouveau Intermidi Mag, bientôt disponible dans les kiosques. En mai dernier, la Baignoire, un lieu d'écriture contemporaine incontournable à Montpellier, recevait l'auteur et metteur en scène Stanislas Nordet. Il venait présenter la nouvelle édition, enfin il a pris la direction de la nouvelle édition Espace 34, l'occasion de lui demander comment il entend défendre les écritures théâtrales contemporaines. Stanislas Nordet, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes là à Montpellier pour présenter Espace 34, une maison d'édition que vous avez reprise il y a peu. C'est quoi le désir de reprendre une maison d'édition? Ça part d'où?
C'est un hasard d'abord. Je ne pensais jamais devenir éditeur un jour. C'est David Léon, l'auteur, qui un jour m'a appelé en me disant que Sabine Chevalier, qui avait créé la maison, passait la main. Si j'avais une idée de quelqu'un qui pourrait reprendre la maison, je n'ai pas pensé du tout à moi au moment où il m'a posé la question. Et après une nuit de réflexion, j'ai pensé que voilà, c'était quelque chose qui pouvait me ressembler par rapport à ma connaissance de l'écriture théâtrale contemporaine depuis 30 ans, 40 ans que je fais ce métier. Mais ça m'est tombé dessus, c'était pas prévu du tout dans les tablettes de devenir éditeur un jour. Donc c'est une découverte magnifique parce que à 60 berges, là, c'est un nouveau métier, jeune éditeur, il y a tout à apprendre à partir d'une belle maison.
Alors, au regard de tout ce qui s'écrit, en fait, il y a aujourd'hui assez peu de traces qui sont laissées. Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça?
La trace, c'est la résistance. Hein. C'est-à-dire, le livre, c'est un lieu de résistance. Donc, éditer, c'est résister par définition. Donc, l'enjeu, c'est que le théâtre puisse se lire d'abord et que le théâtre ne puisse pas que se voir. Pour moi, ça, c'est très important. Et puis, c'est comment, finalement, on n'abandonne pas des pans entiers d'un rapport au monde qu'on peut avoir. Le journal va disparaître bientôt, le livre pourrait disparaître. Continuer à éditer du théâtre contemporain qui ne se vend pas ou tellement peu, c'est vraiment un acte militant et de résistance, mais nécessaire, parce que si on lâche ces petites choses-là, on lâche tout, quoi. Mmh.
Et quand on se met à la place d'un auteur de théâtre, écrire c'est une chose, mais il faut aussi pouvoir jouer, pouvoir trouver le plateau. Comment ça se passe pour eux?
Bah, tout le boulot d'un éditeur, c'est justement de beaucoup faire circuler les textes auprès des metteurs en scène, auprès des directeurs de théâtre. Bon, ça, c'est une tâche à laquelle je vais énormément m'atteler parce que quand on est auteur, on gagne beaucoup plus d'argent avec des droits de représentation qu'avec des livres vendus. On ne gagne pas grand-chose avec des livres vendus, finalement, quand on est auteur de théâtre. Donc, l'enjeu, c'est la représentation, bien sûr. Donc, l'enjeu, c'est le livre édité permet qu'il ait une certaine visibilité, mais en dehors de ça, le boulot de l'éditeur de théâtre, c'est aussi d'actionner toute une série de connexions, de réseaux pour faire lire les metteurs en scène qui ne lisent en général pas assez, faire lire les directeurs de théâtre qui ne lisent en général pas assez, faire lire les acteurs qui ne lisent en général pas assez. Donc ça, c'est un boulot qu'il ne faut jamais lâcher. Parce que contrairement à ce qu'on pense, les gens qui font du théâtre n'en lisent pas tant que ça.
Alors vous avez été comédien, vous avez été metteur en scène, même scénariste. Auteur, vous l'avez été, et comment vous positionnez par rapport à ça, notamment parce que finalement c'est un petit peu la dernière roue du carrosse dans la chaîne.
Alors je n'ai jamais écrit, non pas parce que c'était la dernière roue du carrosse, mais parce qu'au contraire j'ai toujours été dans ma vie dans des exercices d'admiration par rapport aux auteurs que je montais, que je lisais. Donc écrire pour moi était impossible parce que je me sentais tout petit, comme un nain, et porter la parole des autres, la faire entendre, la faire circuler en tant qu'acteur, en tant que metteur en scène, en tant que directeur de théâtre, en tant que pédagogue et maintenant en tant qu'éditeur, ça a du sens pour moi. Mais écrire, je sais pas, quand on a lu trop tôt Joyce, Céline, Proust, etc., c'est difficile de se dire qu'on va écrire, en tout cas pour quelqu'un comme moi.
Alors là, on est à La Baignoire, qui est un lieu d'écriture contemporaine. Vous allez nous parler de la ligne éditoriale. Comment vous la décririez, cette ligne éditoriale pour Espace 34?
Ben, l'idée, c'est vraiment, j'ai repris cette maison d'édition-là et pas une autre. On m'aurait proposé de reprendre une autre maison d'édition de théâtre. Je ne l'aurais pas repris. J'ai repris celle-là parce que le travail que Sabine Chevalier avait fait était magnifique, que le catalogue est magnifique, que les auteurs et les autrices qui sont au catalogue sont des gens qui me passionnent. Donc, ça, c'est un geste qui est vraiment dans la continuité. Il y aura évidemment des évolutions, des ruptures, des nouveaux auteurs et des nouvelles autrices qui vont arriver, des nouvelles collections aussi. Et on va dire qu'un des gestes inauguraux qu'on a fait, c'est qu'on change complètement la ligne graphique de la maison d'édition, qui a été entièrement repensée. Mais l'enjeu, c'est de prolonger le geste, parce que Sabine Chevalier a fait un travail magnifique et que je ne viens pas là pour imposer mes auteurs, virer ceux qui ne me plaisent pas, etc. Je viens parce que c'est cette maison-là qui m'intéressait de porter.
Alors toujours, si on se met, moi non plus je ne suis pas auteur, mais si on se met à la place des auteurs, ils sont quelque part aussi face à une assemblée de spectateurs quand ils arrivent au plateau, et ces spectateurs, ils bougent. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut appréhender cette notion de changement dans la pratique culturelle quand on est auteur, et est-ce qu'on doit en tenir compte?
Moi, je pense qu'on doit tenir compte de rien du tout. Quand on est auteur, on doit écrire dans son coin ou pas dans son coin, ou au contact des acteurs éventuellement. Hein. Mais je pense qu'il faut... Enfin, j'ai l'impression que c'est pas forcément les plus grands auteurs. Si, c'est débile ce que j'allais dire. Non, il y a des grands auteurs qui sont complètement en phase avec leur société et qui la regardent, Balzac ou Zola ou j'en sais rien. Et puis il y a des très mauvais auteurs qui sont dans leur petit coin. Mais je pense qu'en tout cas, faut pas attendre quelque chose du spectateur, puisque le spectateur, il faut le déranger, il faut le bouger, il faut pas lui donner ce qu'il veut au spectateur, sinon c'est emmerdant.
L'auteur de dramatique, il a la possibilité quelque part de bouger le langage, de le réinventer. Alors quand on est éditeur et qu'on se trouve par rapport à des textes qui surprennent ou qui sont inconnu de ce qu'on peut trouver, comment on peut réagir vis-à-vis de ça et quels sont les repères?
Alors ça dépend des éditeurs, évidemment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est bien sûr ces écritures qui brisent des codes, qui se déplacent, qui dérangent, qui créent du trouble. Moi, c'est toujours ce qui m'a ému dans la littérature et la poésie en général. Donc moi, je suis plutôt à la recherche de ces écritures-là, de ces écritures qui sont des écritures à la limite, au bord d'eux, et qui ne sont pas dans des codes ou qui cherchent sans cesse à les briser ou à les réinventer. Mais ça, c'est la ligne, et c'était aussi un peu la ligne éditoriale de Sabine Chevalier, hein, Espace 34, c'est-à-dire aux confins du poétique et du politique, d'une certaine manière. Un geste assez littéraire, c'est une maison d'édition de théâtre assez littéraire par rapport à d'autres, qui affirme la force de la langue.
Alors nous, on prépare à Intermédie un prochain numéro qui a pour thématique la culture d'aujourd'hui et la culture de demain. Très très large thématique, mais si on pense théâtre, comment vous vous appréhendez le théâtre d'aujourd'hui et comment vous voyez le théâtre de demain ?
Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une hémorragie de ce qu'on appelle les écritures de plateau, qu'on montre de moins en moins de textes, etc., qui est un peu un abandon de ça et beaucoup d'aventures collectives. Mais je pense que ça va s'épuiser un peu. Tout le monde se dit le texte disparaît, le texte ne sera plus là. Moi, je pense que le texte va revenir en majesté très, très vite parce qu'on en a besoin du texte. On a besoin du texte parce que c'est de la pensée, parce que c'est de la parole, c'est de la poésie. Donc, je ne crois pas du tout qu'on soit dans une phase descendante du théâtre. On est dans une phase de transition où l'image prend beaucoup de place, mais finalement on va en avoir fait assez vite le tour, je pense. L'œil du spectateur va se lasser parce qu'on aura assez vite vu et revu les mêmes choses, que comme toujours, les grandes innovations, les premiers spectacles, les plein de vidéos et tout ça, ça va se faner, ça se fane vite quand même, ce genre de choses.
C'est très éphémère.
Donc moi je crois que l'acteur seul au plateau, avec un projecteur, deux chaises et un texte, il a toute sa vie devant lui.
Donc le théâtre n'est pas mort.
Pas du tout, il a résisté à tout.
Merci beaucoup. On vous propose d'enchaîner avec Stanislas Nordet qui lit un extrait de Solitudine, un texte de la collection Jeunesse des éditions Espace 34, mettant en présence un tigre et un enfant.
Solitudiné, personnage, l'enfant, le tigre, des chasseurs. L'enfant et le tigre se font face dans la forêt. L'enfant. Toi, tu es grand, moi, je suis petit. Le tigre se tait. L'enfant. Je suis perdu, peut-être. Toi, tu es le roi de la forêt. Le tigre se tait. L'enfant. C'est ce que disent ma mère, mon père, tout le monde. Le tigre, c'est le roi de la forêt. Moi, ce que dit tout le monde, je ne crois pas que c'est vrai. Moi, la forêt, j'y suis bien. Je ne veux pas retourner. Je connais chevreuil, écureuil, mésange, sanglier, biche, jais, merle, corneille, hibou, rouge-gorge, oiseaux de toutes les couleurs. Et les arbres, tous les arbres, enfin presque, chêne, pin, peuplier, bouleau, charme, érable, magnolia, frêne, séquoia, c'est le plus grand. Peut-être c'est lui le roi de la forêt. Tu vois, je connais un paquet de monde. Toi, je t'ai jamais vu jusqu'à maintenant. Le tigre se tait. L'enfant, tu n'es pas causant. Ça t'ennuie que je te parle ? Tu sais, je me tais toute la journée dans la forêt, alors je suis bien content de te rencontrer. Mais tu sais, je ne veux pas te déranger. Le tigre s'approche, l'enfant ne recule pas. Le tigre s'approche encore. Le tigre, tu t'appelles comment ? L'enfant. L'enfant. Et toi ? Le tigre. Solitudine. L'enfant. C'est long ça comme nom. Oui, c'est long, répond le tigre. L'enfant. S'il te plaît, tu peux répéter ? Le tigre. Solitudine. L'enfant. C'est joli, on dirait de la musique, ton nom. Le tigre. Le tigre. L'enfant, c'est pas un nom. C'est comme si je te disais le tigre. Tout le monde a un nom. L'enfant. J'aime pas mon nom. Je préfère dire l'enfant. Tu veux bien m'appeler l'enfant ? Dit l'enfant. D'accord, répond le tigre. Il s'approche encore un peu et dit : Tu es audacieux, toi. L'enfant. Ça veut dire quoi ? Le tigre. Tu n'as pas peur de moi. L'enfant. Pourquoi je dois avoir peur de toi? Le tigre. Tu sais bien, on dit que je mange les enfants. Ta mère, ton père, tout le monde le dit. L'enfant. Oui, mais tout le monde, c'est pas toi et moi. Le tigre. Tu es drôle et intelligent, mais tu vas grandir. L'enfant. Non. Le tigre. Comment ça, non? Alors toi, tu n'as pas de nom et tu grandis pas. Le tigre rit, ça fait beaucoup de bruit. L'enfant sursaute. L'enfant. Tu as une grosse voix. Le tigre se tait. L'enfant aussi, un moment, puis... L'enfant. Dis solidine. Le tigre. Solitudine. Apprends à le dire bien, j'aime mon nom, moi. Il le dit encore une fois. Solitudine. L'enfant épelle. Solitudine. Puis il demande, dis solitudine, tu as un enfant, toi? Le tigre. Non. L'enfant. Dommage, j'aurais pu jouer avec. Le tigre, pourquoi? Tu veux jouer avec moi? L'enfant. Oui. Juste, tu es très très grand. Si on joue à la bagarre, tu vas m'écrabouiller, me ratatouiller. Le tigre. T'écraser, te ratatiner? Non, je fais pas ça, moi. L'enfant. Tu as des grosses pattes, avec des grandes griffes. Le tigre s'approche encore et caresse la joue de l'enfant tout doucement. C'est bon, dit l'enfant. Encore, dit l'enfant.
S'achève cette saison Docteur Midi en Escapade. On se retrouve en septembre sur les ondes de Radio Escapade et durant tout l'été avec des rediffusions d'émissions, peut-être des rencontres, D'ici là, vous pouvez suivre notre actu quotidienne interrégionale et méditerranéenne en accès libre sur le site altermidi.org et vous procurer le dernier Intermidi Mag dans lequel notre dossier aborde la question de l'aujourd'hui et de demain pour les artistes et les acteurs culturels. Le pouvoir politique a toujours su qu'en contrôlant la peur des citoyens, on devenait maître de leur âme. L'histoire du tigre et de l'enfant qu'on a entendu de Solitudine détrône les rapports de force. L'enfant n'a pas peur et dès lors, tout devient possible. Merci à Fab, à la technique aujourd'hui et très bon été à tous. Do you believe in what you say?